Je sais pourquoi l'oiseau en cage chante, dit la poétesse américaine Maya Angelou. L'oiseau libre sautille sur le dos du vent et flotte en aval jusqu'à ce que s'achève cet élan et plonge ses ailes dans les rayons orange du soleil et ose défier le ciel. Mais un oiseau qui piétine dans sa cage étroite peut rarement voir à travers ses barreaux d'orage. Ses ailes sont entravées et ses pattes sont liées. Alors il ouvre sa gorge pour chanter. L'oiseau en cage chante avec un trémolo de peur, des choses inconnues, mais espérées encore, et sa mélodie se fait entendre sur la colline lointaine, parce que l'oiseau en cage chante la liberté. L'oiseau libre pense à une autre brise, et aux alizés doux à travers les arbres soupirants, et aux vers tout gras l'attendant sur une pelouse luisante à l'aube, et il désigne le ciel comme sien. Mais un oiseau en cage s'assoit sur la tombe de ses rêves. Son ombre piaille d'un cri de cauchemar. Ses ailes sont coupées, ses pattes liées. Alors il ouvre sa gorge pour chanter. L'oiseau en cage chante avec un trémolo de peur des choses inconnues, mais désirées encore. Et sa mélodie se fait entendre sur la colline lointaine parce que l'oiseau en cage chante la liberté. Maya Angelou, 1969.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang que libère. Mon invité d'aujourd'hui, il est romancier, il écrit de la science-fiction 15 ans après le succès monumental de son roman La Horde du Contrevent. Il revient avec un roman ambitieux, Les Furtifs, en librairie depuis peu, à travers le portrait futuriste et glaçant d'une société régie par la finance, l'hyperconnexion, l'auto-aliénation. C'est évidemment d'aujourd'hui et de liberté qu'il nous parle. Bonjour Alain Damasio.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Qu'est-ce qui pour vous aujourd'hui menace nos libertés? Tiens.
Oh, c'est un beau sujet de départ. C'est énormément de choses, malheureusement. Et mon roman essaye de les aborder dans le détail. La chose principale, c'est qu'on vit sous un régime de contrôle, même, on pourrait dire, un régime de trace, c'est-à-dire un monde dans lequel chaque acte, chaque déplacement, malheureusement, chaque surf, chaque SMS, chaque chat, chaque mail est soumis à l'empire de la trace, c'est-à-dire laisse une trace informatique qui va être ensuite évidemment collectée, data minée, réutilisée par des multinationales pour nous vendre, voilà, et nous proposer en tout cas les produits dont nous sommes censés avoir besoin. Donc ce monde-là de contrôle, ce que moi j'appelle le techno-cocon dans mon livre, c'est-à-dire ce cocon tissé de fibres optiques et d'outils technologiques. Eh ben, nous couvre, nous cajole, nous choie, mais aussi, bien sûr, nous enferme et conjure cette liberté, ce rapport à l'altérité dont, à mon avis, on a hautement besoin.
Voilà. Rapport à l'altérité et puis aussi l'oubli, l'invisibilité qui n'ont plus de place, semble-t-il, dans le monde de demain, ce monde soumis à l'exigence de transparence, non?
Ouais, parfaitement. C'est un thème qui avait magnifiquement mis en valeur Michel Foucault dans Surveiller et Punir, ce fameux analyse du panoptique. Sauf que le panoptique, effectivement, s'est généralisé. C'est devenu presque un ethos, quoi. C'est-à-dire un mode de comportement et un mode de suivi des populations. Et malheureusement aussi, ce panoptique, bah, il est actionné par les gens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est acteur, on est relais de ce panoptique, de cette surveillance, de cet intercontrôle.
C'est ça la vraie question. Qui nous soumet, qui nous domine, qui nous aliène, en fin de compte, Alain Damasio?
La nouveauté, moi, j'ai en tout cas l'évolution que j'ai eue depuis mon premier roman, La Zone du Dehors, et maintenant 25 ans après celui-là, c'est qu'au départ, j'étais encore prisonnier de ces conceptions un peu de la gauche radicale qui étaient que, voilà, on avait de façon un peu pyramidale une espèce de maelstrom qui comportait les médias, le gouvernement, les multinationales, et ces trois forces-là venaient exercer leur contrôle sur nous. Ce que je vois aujourd'hui, c'est plutôt des entreprises qui mettent à disposition tout un ensemble d'outils, d'applis, de logiciels.
De sorte que l'individu s'auto-aliène.
Voilà, et maximise même son auto-aliénation. Donc, on n'a pas de pistolet sur la tempe. Personne vient nous obliger à utiliser un téléphone portable, personne vient nous obliger à utiliser telle ou telle appli. Mais on n'arrête pas d'arbitrer entre un accroissement de la fluidité de nos vies, de la commodité de nos vies, et une perte de liberté, ou en tout cas une perte de capacité à garder une vie privée précieuse.
Mais pourquoi est-ce que l'être humain coopère en réalité? Pourquoi est-ce qu'il se soumet, à votre avis?
Je pense qu'on a une vraie capacité liberticide propre à l'être humain, c'est-à-dire on est un peu comme les animaux de zoo qui finalement au nom de la nourriture qu'on peut nous apporter acceptent de sacrifier leur liberté. Je pense que la liberté est quelque chose de très difficile. La liberté demande énormément d'énergie, demande une vitalité énorme pour être assumée, pour être conduite, pour être respectée. Et c'est beaucoup plus facile d'outiller ses paresses, c'est beaucoup plus facile d'accepter la loi du moindre effort et de s'y conformer que d'assumer cette liberté et ce que ça demande.
Et ça menace la démocratie.
Ouais, moi je trouve que ça menace parce que la démocratie ne reste vivante et ne reste active que si elle est perturbée, que si on sort de ces facilités-là.
Dans Les Furtifs, votre nouveau roman, Alain Damasio, l'homme est inséparable d'une bague qu'il doit porter au doigt. Qu'est-ce que cette bague, en fait? À quoi est-ce qu'elle sert?
Ah, la bague, c'est pour moi le grand outil de convergence, malheureusement, qu'on nous prépare, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil de convergence est essentiellement sur le smartphone. Je pense qu'on va vers une miniaturisation de ces technologies. Donc, à la fois on voit beaucoup les gens avec des casques sur la tête. Je pense que ça va être réduit à une sorte d'oreillette, juste. Oui. Des petites boucles d'oreilles sur le...
C'est le fantasme de la puce, en
fait.
Ouais,
un peu, ouais. Qui permettra d'avoir un son magnifique. Et puis surtout, on aura la bague. Et la bague, évidemment, concentrera tous les éléments de la carte bleue, du smartphone, de la puce identificatoire, et qui nous permettra de circuler comme ça à travers la ville, de payer sans même avoir besoin de contresigner quoi que ce soit.
Mais de quoi elle nous prive, cette bague?
Elle nous prive du fait de pouvoir se déplacer librement dans une ville sans être en permanence géolocalisé, ce qui est quand même malheureusement ce qui est en train d'arriver.
C'est une société qui est absolument terrifiante et déshumanisée. Dans ce livre, à quoi ressemblent les villes, en fait, dans Les Furtifs? Il faut nous raconter qu'est-ce qu'elles sont devenues.
Alors oui, donc je suis parti d'une idée qui m'amusait beaucoup au début, mais qui me paraît malheureusement un peu crédible. J'avais pris conscience que les villes empruntaient sur le marché bancaire international. Donc, par exemple, Paris est coté AAA sur le marché bancaire international. Donc, on prête de l'argent à Paris. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il n'y a aucune raison que ces villes ne tombent pas un jour en faillite et qu'on les pousse à être en faillite finalement et que donc elles ne soient pas rachetées par des multinationales. Mais comme le capitalisme est tout à fait intelligent, il va chercher que les villes rentables. Donc, par exemple, Paris est une ville effectivement rentable et intéressante. Donc, c'est LVMH, évidemment, l'entreprise du luxe qui va la racheter. Et puis, on va avoir, bien sûr, Lyon, qui est la capitale de la gastronomie, qui va être rachetée par Nestlé. C'est comme ça dans le livre, s'appelle Nestlyon. Et puis, on a Cannes, qui est, la ville du cinéma rachetée par la Warner. Et Bordeaux racheté par le consortium des vins Bordeaux, etc. Et puis dans le livre, ma blague, c'est qu'effectivement, on est à Orange, ça se passe à Orange, et Orange, bien sûr, racheté par la multinationale Orange, parce qu'ils n'ont pas eu à payer la marque. Et dans ce monde-là, comme ils veulent évidemment pas faire payer d'impôts, c'est pas l'esprit de l'ultralibéralisme, donc on paye des forfaits. Voilà, donc on a un forfait standard, premium, privilège. Mais c'est des choses qui existent déjà dans des villes. Hein. On ne fait généralement qu'hypertrophier un présent qui est déjà là en science-fiction.
Mais plus que ça, avec ce livre, il me semble que vous tentez d'envisager des solutions pour un futur plus enviable.
Voilà, oui. Moi, il y a une part dystopique, hein, qui est propre à la science-fiction.
Qui serait le contraire de l'utopie, la dystopie.
Voilà, dystopie, c'est l'anti-utopie. Donc on dresse un monde un peu glacé, un peu noir. Mais là, je l'ai vraiment placé en arrière-plan. Et ce qui m'intéressait, c'était de proposer des solutions. Voilà, c'était de proposer des éléments de lutte, de résistance, mais aussi de création de nouvelles formes de communauté, de nouvelles formes de vie.
Voilà.
Et ça m'intéressait beaucoup plus que de faire une énième dystopie.
Et si je vous comprends bien, le futur ne sera vivable qu'à condition que l'être humain accepte de revenir en arrière, d'une certaine façon, en reprenant contact avec le vivant, notamment.
Ouais, tout à fait. Moi, je pense que c'est... Alors, je sais pas si c'est un retour en arrière, mais en tout cas, c'est un renouement avec le vivant.
Alors, ça passe par quoi, renouer avec le vivant?
Alors, renouer avec le vivant, donc il y a plein de possibilités. Moi, dans ce livre, je me suis beaucoup inspiré de Baptiste Morisot, un philosophe contemporain qui a 35 ans, qui est un spécialiste du pistage des loups, notamment, et qui, lui, montre bien que... On s'est bloqué sur l'idée que de soit on sanctuarise la nature, on la protège, on n'y va pas, c'est l'idée un peu parc national, soit on la pille et on a une logique extractiviste, capitaliste, classique. Il dit que ces deux possibilités sont très mauvaises parce que ce qu'il faut, c'est un troisième terme qui est des rapports politiques, il appelle ça, avec le vivant. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à un loup, il faut pas juste dire on protège le loup et on l'empêche de tuer le moindre mouton, ni on va lui tirer une balle dans la tête. Mais de réussir à communiquer avec le loup, à laisser des laissées odorantes qui permettent au loup de savoir que là, il doit pas y aller, lui faire comprendre qu'on n'attaque pas un troupeau de moutons, avoir des vrais rapports de compréhension des signes que laisse le loup, des signes qu'on peut lui laisser nous pour qu'il comprenne ce qu'on fait, parce que c'est un animal extrêmement intelligent. Donc d'avoir des rapports, comme il dit, de négociation, parfois d'entraide, parfois de solidarité, parfois d'osmose, parfois de prédation, parce qu'il dit il y a une prédation minimum à conserver, parce qu'on est des êtres humains et puis on doit manger un peu de viande. Et donc il rebâtit ses rapports avec le vivant comme des rapports politique au sens très large, de dire il faut savoir vivre ensemble, il faut savoir cohabiter sur une autre carte de vivant avec les loups, avec les insectes, avec les oiseaux, etc.
Puis ça passe aussi par de la résistance. Vous, par exemple, Alain Damasio, vous n'avez pas de portable.
Voilà. Ça, c'est mon immense luxe. C'est d'un immense luxe et je le préserve. C'est vrai que dès le départ, ça m'avait extrêmement choqué qu'un outil de communication soit aussi un outil de géolocalisation. C'est-à-dire qu'on puisse savoir à n'importe quel moment où je me déplace, où je suis, etc. Et moi, voilà, je suis écrivain, j'adore quand je sors de chez moi. Quand je monte à Paris, quand je vais dans les Calanques, etc., j'adore pouvoir lever absolument la tête, être présent à ce qui se passe. C'est, j'ai envie de dire, mon métier, ou en tout cas mon rapport au monde, de d'éponger les trains buvards sur tout ce qui se produit dans un métro, dans un bus, dans une rue, et d'avaler tout ça, et de l'orpailler, et d'en faire une matière pour mes romans. Et si j'ai le nez sur mon smartphone, ça devient plus possible.
Et les proches s'y habituent.
Et j'ai réussi à le faire accepter, voilà. Mais c'est pas évident pour tout le monde de vivre comme ça. J'avoue que c'est un luxe.
C'est intéressant parce que ce qui se dessine quand même dans ce que vous dites depuis le début de cette émission, ça n'est plus ni moins qu'une conception de l'homme, non pas comme un surhomme, mais vous dites comme très humain.
Voilà, j'essaye. Oui, c'est vraiment une piste.
Qu'est-ce que c'est, quelqu'un de très humain?
C'est essayer de se dire, on nous a proposé le transhumain comme un couplage de l'homme avec la machine et que l'émancipation de l'homme allait passer par ce couplage avec la technologie. Moi, je dis, et c'est bon, voilà, je l'invente pas, je le tire aussi de philosophes qui m'ont beaucoup inspiré, comme Nietzsche, comme Spinoza, etc. C'est de dire, l'homme a en lui absolument toutes les capacités nécessaires pour mener une vie ample, riche, complète, intense. Toutes les capacités sont là, les capacités de création, les capacités d'invention, les capacités de mémorisation, les capacités physiques, les capacités sensuelles, charnelles. On est un être vivant et comme être vivant, on est doté d'un ensemble de facultés qui est absolument extraordinaire. Moi, je trouve que c'est un don sublime, voilà, d'être vivant. Il faut arrêter de considérer l'être humain comme manquant de quelque chose. Voilà, on ne manque de rien, mais par contre, il faut aller au bout de ce qu'on peut, il faut aller au bout de ses puissances et essayer d'habiter, voilà, toutes ces capacités qu'on a en nous, quoi.
Le romancier Alain Damasio, invité de Boomerang ce matin pour Les Furtifs, ce roman qui vient 15 ans après La Horde du Contrevent, 20 ans après La Zone du Dehors, des romans de science-fiction. Pour l'écrivain, quel champ du possible vous a ouvert, tiens, la science-fiction?
Il y a des lectures, beaucoup de bandes dessinées, c'est marrant, j'étais beaucoup éduqué par la bande dessinée. Mais la science-fiction, voilà, on le dit pas assez, c'est un genre qui a parfois une mauvaise réputation, c'est-à-dire qu'on ça fait image vers la robotique, vers les vaisseaux spatiaux, ce qu'on appelle le planète opéra, c'est-à-dire le fait de circuler entre différentes planètes, un peu l'imaginaire Star Wars. Et en réalité, la science-fiction est beaucoup plus vaste que ça, c'est peut-être le genre existant en littérature le plus libre et le plus vaste qui soit, parce qu'on peut y interroger les niveaux de réalité. On peut y faire de la sociologie, de la philosophie, de la politique. On peut. Ce qui manque, c'est cette idée qu'on a mal compris le mot science. Dans le mot science, il y a science dure, mais il y a aussi science humaine. C'est-à-dire que moi, je vois tous les auteurs de science-fiction autour de moi qui sont dans le courant français, à La Volte, notamment mon éditeur, mais aussi ailleurs. C'est généralement des gens qui lisent énormément de sociologie, de philosophie, d'anthropologie, oui, et qui posent des questions par rapport à ça. C'est dire la science-fiction, c'est le genre qui permet d'interroger ce que la technologie fait à l'homme. Et comment la technologie réinvente le rapport que l'homme a avec le monde, avec le cosmos, avec les autres, avec soi-même. Et cet impact-là, il est massif et très important aujourd'hui parce qu'on est dans un monde vraiment anthropotechnique, c'est un monde dominé par la technologie. Donc la science-fiction se retrouve un peu au cœur de tout parce que elle a l'habitude de traiter ces enjeux-là.
Et c'est un genre qui est aussi, je parle sous votre contrôle, à la gloire du livre. C'est ce qui me frappe très souvent en lisant de la science-fiction. Dans Les Furtifs, vous imaginez une société où la place du livre est pour le moins restreinte, Alain Damasio. Et pour cause, les adolescents ont une capacité de concentration maximale de 30 secondes. Quel avenir est-ce que vous lui voyez, vous, au livre, précisément?
C'est étonnant, parce qu'il y a quand même une énorme, et surtout en France, une magnifique résistance du livre, et même du livre-objet. Et pour moi, on n'a pas été au bout de la forme livre, c'est-à-dire que, par exemple, sur le travail typographique que j'ai beaucoup exploré dans Les Furtifs, la modification des lettres, l'altération des lettres, l'utilisation des signes diacritiques comme les trémas, les apostrophes, etc., pour densifier le texte ou pour lui donner une dimension narrative, c'est finalement très peu fait. Là, on a utilisé la police Garamond avec tous les glyphes, il y a 1000 glyphes dans la police Garamond. On s'est éclaté à le faire et en plus ça sert la narration et je trouve qu'on n'a pas été encore assez loin. Moi je voulais découper même des choses dans le livre au départ, mais mon éditeur s'est mis à hurler parce que je voulais découper des cases.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment ça coûte très cher, Alain.
Ça coûte très cher, voilà. Il m'a expliqué ça.
L'éditeur hoche la tête en régie de façon très claire.
Mais il y avait, je pense qu'on peut aller encore plus loin et c'est un médium qui, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas livré toutes ses potentialités, je pense moi.
Quand on est dans une forme de résistance, mais l'avenir du roman par exemple, il sera plus court, il sera plus mince.
Ah, je sais pas. Non, je crois pas. Moi, personne m'a jamais reproché de faire des livres longs en me disant, oulala, 700 pages, c'est trop long. Les gens rentrent dedans, s'immergent, et finalement adorent parce que c'est tout un trajet, c'est tout un voyage qu'on fait. Voilà, on vit énormément de choses. On passe par énormément d'émotions.
À quel travers de nos sociétés résiste le roman, à votre avis?
Je pense que ça résiste à ce côté boucle. Vous savez, on parle beaucoup des boucles dopaminiques, c'est-à-dire des systèmes où ça déclenche une petite injection de dopamine dans votre cerveau et ça enclenche une sensation de plaisir. Aujourd'hui, beaucoup de médiums fonctionnent là-dessus, notamment les jeux vidéo, en tout cas les jeux vidéo addictifs, hein, les mauvais jeux vidéo, parce qu'il y a des très bons jeux vidéo. Et en fonctionnant sur ces boucles très courtes de récompenses, on appauvrit complètement la sensibilité humaine. Et le livre repermet de donner une durée, repermet aussi de fabriquer une mémoire. Et ça, on le dit pas assez, je pense, c'est que un grand livre fabrique une mémoire. C'est-à-dire, il vous laisse des souvenirs aussi intenses que ceux que vous avez pu vivre dans la vie réelle. Et ça, c'est la magie. Voilà, c'est la magie du roman. C'est que vous allez après avec cette espèce de leg, ce petit sac d'amour et ce petit sac de sensations qui reste en vous, tous ces personnages, toutes ces aventures, toutes ces pensées aussi, parce que le livre porte des idées. Et ça vous laisse ça en vous et ça vous permet de mieux vivre. Donc c'est hautement précieux, encore, je crois.
Tout ça, c'est juste un conte. Du storytelling de militaire auquel tu as besoin de croire, auquel tu t'accroches. C'est tout. Vous alimentez à votre façon très sérieuse, très carrée, cette légende urbaine d'être qui serait totalement libre, qui serait capable d'échapper à notre monde hyper tracé. Toute légende, tu le sais, tu as fait de l'anthropo, née d'un désir subconscient, partagé de communautés entières. Le nôtre, de désir, est de pouvoir disparaître, de devenir invisible, de pouvoir fuir quand toute notre société crève d'être sous contrôle. L'armée récupère cette pulsion. Elle a juste l'ignominie de l'exploiter, de faire croire à une menace parfaitement imaginaire afin d'affiner encore ses techniques de détection et de traçage. Comment tu peux tomber dans ce piège grossier? Tu sais qu'ils ont besoin de nous. Tu sais qu'ils ont besoin de nous fabriquer sans cesse des ennemis. D'autant plus que notre société éclate, qu'elle se segmente en une myriade de communautés depuis la faillite des villes. Ressouder est un impératif pour ce qui reste de notre état à l'agonie. Et rien ne ressoude mieux un peuple qu'une menace commune. Aujourd'hui, Alain Damasio, quelle serait donc la menace commune inventée pour nous ressouder, aujourd'hui, ici?
Aujourd'hui, ici, la menace numéro un, celle qui est parfaite pour les pouvoirs et les nations, c'est les migrants.
C'est l'autre.
Malheureusement, c'est l'autre. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on en invente. On invente des termes comme ruée, invasion, alors que les flux migratoires sont extrêmement constants, en réalité. Donc l'ennemi commun, et sur lequel, évidemment, s'appuie le Front National, pour moi, c'est le migrant. L'ennemi extérieur, on sait dans la psychologie des foules, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et c'est beaucoup plus facile de souder effectivement une communauté par la peur que par le désir.
Ce que vous nous dites Alain Damasio, c'est que tout est fiction, en fait. Que toute vision du monde repose sur une histoire qu'on se raconte. Comment dès lors entrevoir ce qui relève du vrai ou du faux? C'est un travail de tous les jours, de toutes les heures.
Ouais, c'est très complexe. Et quand vous posez cette question à un romancier, c'est très complexe pour moi parce que...
Pensez bien que c'est la
parce qu'on travaille évidemment avec des niveaux de réalité et de fiction qui sont très, très forts. Moi, je vis à l'intérieur de la fiction en permanence, quoi. Et j'essaie de faire des fictions qui soient véridiques.
Alors, quel est le lieu? C'est ça la question où s'exprime le mieux la vérité aujourd'hui, en fin de compte? Le roman de science-fiction?
Peut-être. En tout cas, le roman de science-fiction, je pense à cette faculté à hypertrophier le présent, comme je disais, c'est-à-dire qu'on a des tendances, on a des signaux faibles, on a des petits vecteurs d'évolution qu'on voit pas forcément, et la science-fiction les rend saillants, leur donne un relief, leur donne une visibilité que ça n'a pas forcément encore aujourd'hui. Donc ça donne une vérité à des choses qui sont parfois masquées, invisibilisées, non vues, et en ce sens-là, peut-être qu'on a effectivement un rôle de vérité, quoi, qui se met en place par le roman, paradoxalement, par la fiction, paradoxalement.
En quoi est-ce que vous croyez, vous?
Ah, moi, je crois au vivant, profondément. Moi, je crois à cette chance incroyable, voilà, d'être un corps et un esprit sentant et capable de penser, capable de création.
Ouais. On va continuer à en parler ensemble, juste après un petit Gainsbourg. Tiens, je sais que c'est l'un de vos disques préférés, L'homme à la tête de chou, 1976. Vous êtes sur France Inter avec Alain Damasio. Vous écoutez Boomerang.
Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes, moitié mec. J'allais porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à fond de cale, à bout de nerfs. j'avais plus un copec. Des jours où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job, la feuille de chou, un scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec. Et mat aux yeux de Marilou, qui me traitait comme un blanc bec et me rendait moitié coucou. Oh non, tu peux pas savoir, mec. Il fallait les discothèques et bouffer au kangourou club. Alors je signais des chèques sans provision, j'étais fou, fou. À la fin, j'y vis le caillou comme un melon, une pastèque. Mais maman, je vais pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, de mes rancors, des clous. Blanche écume, varec, sur la plage de Malibu.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors, il n'a pas du tout une tête de chou, ni rave, ni fleur, ni même de Bruxelles. Pas du tout. Peut-être une tête de savant fou, tiens, le visage constamment en éveil, le regard mobile, tantôt curieux, tantôt mystérieux, les mains frétillantes qui se frottent d'un air entendu, des mains qui écrivent, évidemment, avec son t-shirt violet, son pantalon beige et ses tennis. Ce matin, le romancier Alain Damasio, invité de Boomerang pour son nouveau livre Événement, Les Furtifs, un roman de science-fiction, un roman qui nous parle, évidemment, d'aujourd'hui, un roman aux consonances très philosophiques, on l'entend. Il paraît d'ailleurs que vous vous définissez comme un philosophe raté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, j'avais été très frappé de voir David Lynch, que j'adore absolument, dire qu'il était un peintre raté. C'est ce qui l'avait amené à être réalisateur, et ça m'avait toujours fasciné en me disant, ben heureusement qu'il se considère comme un peintre raté. Oui, moi je me considère vraiment comme un philosophe raté. J'ai toujours une énorme admiration pour les philosophes que je trouve vraiment au sommet de la pensée humaine.
Et nécessaire, qu'est-ce que ce serait le rôle d'un philosophe aujourd'hui?
Ah, c'est de rendre la pensée vivante, ça c'est très important, c'est-à-dire que de remettre en vie la pensée, c'est-à-dire que toutes les pensées mécaniques, mécanisées, automatiques dans lesquelles on vit, ils viennent tout d'un coup les ouvrir, les fendre, les percer. Moi, ce philosophe dont je vous parlais, qui est devenu un ami, Baptiste Morisot, chaque fois que je passe un repas avec lui, j'en ressors tout simplement plus vaste. J'ai l'impression que mon volume intérieur, ma boîte crânienne, a pris quelques décimètres cubes de plus. Et ça, c'est le rôle de la philosophie, c'est tellement précieux.
Pour le philosophe que vous êtes, parce que vous l'êtes un peu quand même, Alain Damasio, que symbolise, que représentent les furtifs, ces créatures dissidentes, quasi invisibles, qui ne cessent d'échapper à la surveillance et au contrôle exercé par l'autorité?
Alors, au début, je l'avais conçu comme un envers, simplement, de la société de contrôle, en me disant, quelle est la résistance possible à ce monde de traces, à ce panoptique généralisé? Et j'avais bâti les furtifs pour ça, en me disant, les furtifs, ils vont vivre dans l'angle mort de la vision humaine, ils ont cette capacité à échapper à nos regards, ils sont là, dans le studio, sous la table, ou dans l'angle mort au plafond. Et c'était juste une position contre, en fait. Et après, je me suis dit, mais non, mais c'est beaucoup plus que ça, qu'est-ce que je veux porter moi positivement? Et je me suis dit, je veux créer des êtres qui soient, là c'est des êtres à la fois animaux, végétaux, minéraux, et c'est la plus haute forme du vivant, c'est-à-dire le vivant dans ses capacités d'autopoïèse, c'est-à-dire d'autofabrication, d'autoréparation, oui, de métamorphose, de composition.
Alors ils incarnent l'espoir d'un autre monde.
Voilà, l'espoir vraiment d'un autre monde, et une ligne de fuite pour l'être humain en se disant, voilà, on va pas vers le transhumain, on va vers une hybridation avec le vivant qui serait plus forte. On retrouverait en nous toutes ces facultés, ces capacités, ces ascendances animales qui sont en nous, qui sont sédimentées en nous, et qu'on rejette comme étant quelque chose de pas intéressant, alors que voilà, c'est ce que l'évolution millionnaire a produit et laissé en nous. On est le produit de ces beautés là animales, et il faut qu'on les remobilise en nous.
Et puis la possibilité, j'ai l'impression que des choses nous échappent. Qu'est-ce qui vous échappe à vous quand vous écrivez? Tiens,
oh, quasiment tout. C'est malheureusement, vraiment, c'est très intéressant en livre, parce que Moi, je suis porté parce que disait Mallarmé, c'est-à-dire faire un livre qui soit un livre architectural et prémédité. Il dit ça. J'adore cette expression, architectural et prémédité. Donc, je travaille énormément sur Cahiers. Là, c'est un livre qui s'étale sur 15 ans. Il y a 3 ans d'écriture. C'est il y a ça. Énormément de travail sur Cahiers. Et je me dis, bon, je sais vers quoi je vais bâtir le concept de furtivité, puis je vais faire un livre autour de ça, autour des furtifs. Bon, ça, c'est ce que vous vous dites rationnellement. Et puis, la vérité, c'est ce que dit Duras. C'est-à-dire, on écrit pour tenter de savoir quel livre on écrirait si on l'écrivait. Et on le sait pas avant, on le sait qu'après. Et on est toujours extrêmement surpris de ce qu'on a produit. Moi, aujourd'hui, la brique jaune, j'appelle ça la brique jaune, parce que le livre fait 700 pages et a une belle couverture jaune. Je le vois comme ça sur les étals des librairies et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Je croyais maîtriser ça. Je croyais porter ça avec une conscience philosophique, rationnelle. Et en fait, j'ai été débordé en permanence par mes personnages, par le flux même du langage, par le style, par les souvenirs, par l'énergie que ça demande. Et ce débordement, le fait d'être dépassé constamment par ce que tu écris, c'est ça qui te donne l'immense plaisir d'écrire. S'il n'y avait pas ça, tu serais que le fonctionnaire de ton écriture et tu ferais qu'appliquer un plan prédéfini qui serait même pas intéressant, quoi. Donc d'être débordé et puis de comprendre à rebours, très longtemps après ce que tu as voulu faire, ça c'est extrêmement précieux. Ouais.
Petit, Alain Damasio, vous inventiez déjà des mondes, vous imaginiez
oui,
déjà.
Ah oui, j'aimais bien ça. J'avais quelque chose, j'avais un sanglier qui s'appelait Vork comme ça.
Pardon?
Un sanglier, ouais,
un sanglier. Dans ma tête.
C'était un doudou sanglier. Hein,
ah d'accord, bon, c'est pas pareil. Hein. Moi aussi j'avais un doudou girafe. Hein.
et en fait, je très souvent, je me baladais en pleine forêt et j'imaginais qu'il était là. Donc j'avais ce compagnon en permanence, qui était dans ma tête, qui était dans mon imaginaire et avec lequel je faisais des milliards de choses. La difficulté, c'est de garder cette part d'enfance en soi quand tu deviens adulte et d'en faire un moteur de ta création.
Vous diriez, Alain Damasio, que notre époque manque d'imaginaire?
Je dirais pas qu'elle manque d'imaginaire, mais je trouve qu'elle souffre d'un imaginaire formaté, voilà, précadré. Et ça, c'est très triste, voilà.
Pour terminer cette émission, vous nous avez écrit un texte, Alain, et c'est un honneur. J'aimerais que vous nous le lisiez, si vous voulez bien.
Ah bah avec plaisir. C'est un texte qui s'appelle « Celles qui bruissent », et c'est sur le vivant, précisément. Le vivant. Le vivant n'est pas une propriété, un bien qu'on pourrait acquérir ou protéger. C'est un milieu. C'est un champ qui nous traverse, dans lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés. Si bien que s'il existe une éthique en tant qu'être humain, c'est d'être digne de ce don sublime, d'être vivant. Et d'en incarner, d'en déployer autant que faire se peut les puissances. Qu'est-ce qu'une puissance? Une puissance de vie. C'est le volume de liens, de relations qu'un être est capable de tisser et d'entrelacer, sans se porter atteinte. Ou encore, c'est la gamme chromatique des affects dont nous sommes capables. Vivre revient alors à accroître notre capacité à être affecté, donc notre spectre ou notre amplitude à être touché, changé, ému. Contracter une sensation, contempler, habiter un instant ou un lieu, ce sont des liens élus. À l'inverse, faire face à des stimulus et y répondre sans cesse pollue notre disponibilité. L'économie de l'attention ne nous affecte pas, elle nous infecte. Elle encrasse ces filtres subtils sans lesquels il n'est pas de discrimination saine entre les liens qui libèrent et ceux qui aliènent. Nos puissances de vivre relèvent d'un art du lien qui est déjà en soi une politique. Celle de l'écoute et de l'accueil, de l'hospitalité au neuf qui surgit, si bien qu'il devient crucial d'aller à la rencontre. À la rencontre aussi bien d'un enfant, d'un groupe, d'une femme, que de choses plus étranges comme rencontrer une musique qui te troue, un livre intranquille, un chat qui ne s'apprivoise pas, une falaise. Côtoyer un arbousier en novembre, épouser la logique d'une machine, rencontrer une lumière, la mer, un jeu vidéo, une heure de la journée, la neige. Faire terreau pour que les liens vivent, les liens amicaux ou amoureux, collectifs et communautaires bien sûr, mais au-delà et avec plus d'attention encore, les liens avec le dehors, le pas de chez nous, l'outre, soi, avec l'étranger, d'où qu'ils viennent. Et plus loin encore, hors de l'humain qui nous rassure, les liens avec la forêt, le maquis, la terre, avec le végétal comme avec l'animal, les autres espèces et les autres formes de vie, se composer avec, les accepter, nouer avec elles, sans berlificoter. C'est un alliage et c'est une alliance. Peut-être n'est-il qu'une seule révolte au fond, contre les parties mortes en nous, cette mort active dans nos perceptions saturées, nos pensées qu'on mécanise, nos sensations éteintes. Être du vif, relever du vif, devenir moins celui qui brûle que celle qui bruisse, amener au point de fusion nos puissances pour en offrir l'incandescence à ceux qu'on aime.
Merci infiniment, Alain Damasio, d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci pour ce texte magnifique à retrouver sur le site de France Inter. Vous pourrez aussi le réécouter sur notre podcast qui est disponible. Également, je rappelle que Les Furtifs, votre nouveau roman, est publié aux éditions La Volte, qu'il vient de sortir en même temps qu'un disque, comme une sorte de bande originale signée Yann Péchin et la chanteuse Mood. Il faut l'écouter, il faut lire ce livre. Croyez-moi, vous allez être conquis tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Like heaven stood up in me. You said love filled.